Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Comment devenir égyptologue ? Les égyptologues, on n'en rencontre pas à tous les coins de rue, c'est la moindre des choses que l'on puisse dire, parce que l'égyptologie est une science très complexe, pas très compliquée, mais très très complexe, puisque c'est déjà plusieurs sciences réunies, l'histoire, l'anthropologie, l'archéologie, la philologie, la philosophie, la théologie, l'art aussi, bien sûr, et probablement des sciences beaucoup plus techniques, un peu éloignées des sciences humaines, la géométrie naturellement, mais aussi tout ce qui a rapport à l'architecture, à l'algèbre, etc., puisque pour construire les pyramides, il a fallu toute une série de connaissances dont nous ne maîtrisons pas d'ailleurs les bases aujourd'hui. Et l'égyptologie a donc cette réputation d'être en quelque sorte la science complète, parce que tout y est mêlé, à la fois les savoirs qui sont le propre de ceux qui font de l'histoire ancienne, les antiquisants d'autrefois, qui sont formés d'ailleurs dans d'autres langues que l'égyptien pharaonique, mais qui en arrivent progressivement à cette langue, mais il y a aussi toutes les questions de l'archéologie traditionnelle, et puis des querelles très très importantes, dont d'ailleurs l'Afrique a été l'un des points de commencement très important, au moins à partir des années 1950. Donc, ils sont rares, les égyptologues, mais on en rencontre quand même de temps en temps. Et moi, j'en ai rencontré un dans le cadre de ces émissions sur l'histoire générale de l'Afrique et son utilisation pédagogique. C'est un égyptologue jeune. Je dirais qu'il n'était pas né au moment où, au milieu des années 50, Cheikh Anta Diop a publié Nation Nègre des cultures et où il a lancé une sorte de bombe qui a suscité de très très grands débats. Il est chercheur, il est docteur en égyptologie, il enseigne dans une université, plus précisément à l'université de Kinshasa, mais il enseigne aussi ailleurs et participe à des colloques dans plusieurs des universités où il est passé, notamment à l'université d'Oxford où il a passé sa thèse de doctorat. Professeur Mpaye Kemboli, bonjour.
Bonjour, professeur.
Donc, c'est vous l'égyptologue. Alors, on peut s'étonner, vous êtes encore au début de votre carrière académique, donc vous avez passé votre baccalauréat, on va dire, il y a 25 ans à peu près, c'est-à-dire pas beaucoup, puisque après le baccalauréat, il faut faire la licence, la maîtrise, le DEA et le doctorat, ça n'est pas un travail de tout repos, donc vous êtes certainement dans le dernier wagon des égyptologues en Afrique. Et d'ailleurs, quand on regarde votre parcours, vous avez fait des études, j'allais dire, normales, des études de pédagogie au lycée. Et alors, cette envie de l'égyptologie, ça vous est venu quand et comment ?
L'envie de faire l'égyptologie est venue à moi suite à la lecture des numéros 149-150 de la présence africaine. Hommage à Cheikh Anta Diop. Et là-dedans, moi qui partais faire le deuxième cycle en philosophie, je me retrouve dans une sorte de vide. Quand on me pose la question, qu'est-ce que l'Afrique, la pensée ancienne de l'Afrique, je me sentais comme dépourvu de réponse. Alors quand j'ai lu ce livre, ce numéro, pardon, j'ai trouvé des lignes directrices qui m'ont nourri et qui m'ont donné l'envie d'être libre. Et je crois que c'est cela. Hein. C'est une aventure, vouloir être libre, m'approprier l'histoire grâce à ces numéros de présence africaine.
Il y a eu, justement, au moment où vous terminiez vos études secondaires, donc au milieu des années 80, il y avait toute une effervescence en Afrique, liée notamment au centenaire de la conférence de Berlin. Il y avait une conférence importante à Brazzaville, et puis Kinshasa a suivi avec une autre conférence importante, au cours de laquelle Cheikh Anta Diop, à son habitude, a fait un numéro extrêmement brillant et soulevé les foules. Pour le jeune homme que vous étiez, est-ce que c'est arrivé arrivé à vos oreilles l'écho de toute cette agitation, peut-être pas en 1985, mais dans les années suivantes?
Eh bien, ça m'est arrivé parce que je crois que c'était tenu au Palais du Peuple, qui venait d'être nouvellement construit. Et puis par après, j'avais acheté le numéro, je me souviens du titre, c'est « L'Afrique et son avenir », 1985, une édition bilingue en français et en anglais. Quand j'ai lu ce livre, et alors, donc ça c'est avant que je m'en aille à Lubumbashi, bien, là encore c'était la question, parce que aux humanités, j'avais appris l'Égypte en dehors de ce contexte africain. Et là, je voyais tout d'un coup une autre lumière, un autre éclairage, une autre perspective qui s'ouvrait devant moi. Donc je me suis dit, on peut donc lier l'Afrique à l'Égypte.
Et oui, parce que même aujourd'hui encore, on voit des livres, des articles de magazines et de journaux, même des émissions de télévision de certaines chaînes internationales, où les auteurs vous expliquent que l'Afrique appartient au Moyen-Orient, hein, et non pas au continent africain. Mais vous, qui étiez lancé plutôt dans des études de philosophie, c'est ça qu'on attendait de vous, la décision de passer à l'Égypte, ça pose quand même beaucoup de problèmes, parce que il y a la barrière de la langue, déjà, il y a cette civilisation que bon, on traite comme quelque chose de très 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 lointain. Le côté technique de la formation de l'égyptologue, ça s'est passé comment pour vous et où?
Eh bien, après la lecture de mon numéro là, 149-150 des présences africaines, j'ai eu le bonheur d'avoir des maîtres assez ouverts. Quand on m'a retenu comme jeune professeur assistant à notre faculté de philosophie Saint-Pierre Canisius, j'avais proposé de donner un séminaire de recherche sur l'Égypte ancienne. Mais je n'avais pas encore de connaissances adéquates. Alors quand je suis allé à Rome, et pendant 2 ans, j'ai étudié au biblique. Et d'abord, c'était à l'université de la Sapienza, mais mon italien n'était pas assez mature pour comprendre toutes les arguties de la science et des arcanes de l'égyptologie. Mais c'est une année après, je me suis mis à l'Institut biblique, c'est là que j'ai fait 2 ans. Et après 2 ans de formation comme graduat, j'ai eu quelques difficultés là, mais en fait, j'ai pris la décision où mes supérieurs religieux m'ont permis d'aller à Oxford pour faire le 2e cycle, donc 2 ans, et puis finalement les doctorats. Mais je l'ai faite comme dans le cadre d'une philosophie ancienne, mais pas gréco-romaine, mais philosophie ancienne africaine. Moi, j'appelais à l'époque les antiquités africaines, pour que cette étude des antiquités africaines puisse nous éclairer, parce que j'avais lu que c'est le Platon, Pythagore, tous ces anciens, les Thalès, sont partis se ressourcer en Égypte. Je me suis dit, mais moi, africain, au lieu de faire ce de tout, eh bien, je vais directement aux sources. C'est comme ce que je l'avais fait pour éclairer, à partir de l'Afrique, la question de la science ou de cette aventure à propos de la critique et de la parole, donc la philosophie, donc l'amour de la vérité et de la parole.
Vous avez fait ces études à Rome. Quel genre de difficultés on rencontre quand on étudie, disons, l'égyptologie? Bah, ceux qui ont fait des études qu'on dit classiques savaient qu'on fait ça en français, mais il faut apprendre le latin, le grec, pour aller parfois un peu plus loin. Dans votre cas, concrètement, comment ça s'est passé? Combien d'années, on va dire, par exemple, ça prend en heures de travail pour maîtriser pas seulement le béaba, mais les fondamentaux?
Bon. Alors, j'avais d'abord fait le latin et puis le grec. Le grec koiné, c'est-à-dire le grec de la période commune, donc, comme on dit, donc lié au Nouveau Testament. Et puis, au biblique, c'était un peu une formation un peu traditionnel, c'est-à-dire vous passez 2 ou 3 mois sur les fondamentaux, la structure nominale, phrase verbale, tout ça. Mais c'est surtout à Oxford. Et là, je crois, je commençais à étudier de 8h à minuit. Et pour apprendre un tout petit peu quelque chose, parce que à 1 heure du temps, tout ce que j'avais étudié de 8h à minuit, bien ça s'envolait. Donc j'ai compris, il fallait s'asseoir. S'asseoir pour pouvoir lire quelque chose, parce que la méthode était aussi assez nouvelle pour moi. C'est-à-dire, vous commencez aujourd'hui une leçon, par exemple, et puis le lendemain, vous commencez à traduire. Parce que le principe, c'est plus vous lisez, plus vous retenez quelque chose. Voilà, c'était un peu comme ça. Donc, je peux dire, il faut au moins 12 heures par jour. Si nous prenons 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de repos, vous prenez un peu de temps de votre repos pour consacrer ce temps à l'étude des grimoires et de l'Égypte ancienne.
Alors, l'équipe d'étudiants que vous étiez, donc vous aviez quelques camarades avec vous, venait de quel horizon ? Des Anglais, des Allemands, des Japonais, enfin, pour voir un peu la configuration. L'égyptologie est aujourd'hui une science internationalement bien établie.
Donc, au biblique, le contexte était les prêtres qui venaient de tous les continents, mais qui faisaient l'égyptologie pour comprendre la Bible. Oxford, par contre, c'était des gens qui faisaient l'égyptologie simplement par amour de l'Égypte ancienne. Et alors, nous avons commencé avec un Sud-Africain. Le principe est aussi un à un, donc on peut avoir un séminaire avec un seul étudiant. Mais la classe la plus nombreuse, nous étions en trois. Il avait une fille, et puis c'était des Anglais. J'étais le seul Africain. Bon, au début, nous étions à deux avec les Sud-Africains blancs, et puis finalement, j'ai fini le seul Africain. Et puis, dans les cadres de maintenant des études de deuxième cycle, on avait des Allemands, des New-Zélandais, des Américains, des Canadiens, évidemment les Anglais, les Écossais, les Polonais.
Et vous avez donc soutenu votre thèse de doctorat en égyptologie en 2005.
C'est ça. Mais j'avais commencé d'abord par une thèse donc de mémoire. C'était sur la violence et la protection dans les plus vieux textes des funéraires de l'Égypte. Ça, c'est surtout les textes des pyramides et les textes des sarcophages. Et après le master, alors j'ai fait en 2005 cette thèse en 2005.
Il n'y a pas de dignité sans liberté.
Nous avons connu que notre fils spolié, au nom des textes prétendument légaux, qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort.
Il vous plaira sans doute de connaître néanmoins le titre de noblesse acquis par les paysans de ce petit pays depuis l'indépendance. Tant il est vrai que la terre ennoblit toujours l'homme qui sait lui confier ses peines.
Je suis avec le professeur Mpaye Kemboli, qui est égyptologue, professeur d'égyptologie, professeur de philosophie, mais aussi professeur de théologie, et par ailleurs éminent karatéka. Comme quoi la recherche scientifique n'est pas exclusive par rapport à des pratiques, disons corporelles, mais qui comportent aussi une dimension spirituelle. Le jeune égyptologue que vous êtes, quand il regarde un peu la manière dont cette science se développe aujourd'hui. Nous avons en Afrique, je dirais, la gestion des travaux de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga notamment. Comment voyez-vous le bilan de ces travaux et qu'est-ce qu'il faut, d'après vous, développer pour les années à venir ?
J'ai eu le bonheur d'avoir le professeur Théophile Obenga qui est venu me voir, et quand nous avons eu un échange et puis une conférence improvisée d'une heure d'une heure, quand il est parti, il m'a laissé trois de ses ouvrages et puis le fameux colloque de Caire, dans 1914, sur le peuplement de la vallée de l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, je crois il serait souhaitable que nous ayons une autre conférence pour essayer d'évaluer ce que nous avons appris. Quitter un peu l'exaltation des années 80 avec Cheikh Anta Diop pour voir effectivement, est-ce que nous avons rempli la mission, la vision de Cheikh Anta Diop, qui nous a demandé de nous armer de la science jusqu'aux dents. Et puis, deuxièmement, quand il préface le livre de Théophile Obenga à l'Afrique de l'Antiquité, il nous demande, il dit, les lignes sont justes. La perspective est juste. On pourrait peut-être revoir l'une ou l'autre chose. À mon avis, de nouvelles thématiques pour moi, et ce serait, par exemple, ce que moi j'ai commencé un peu, l'histoire du mal, ce que j'appelle la cacologie, donc l'histoire du mal. Est-ce que le mal est préexistant ou qu'on dirait contingent, il est venu après? Parce qu'aujourd'hui, dans notre 21e siècle, on est confronté à ces problèmes. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. C'est toujours essayer de comprendre, est-ce que le monde est parfait? Quelle est ma part de responsabilité dans l'histoire du monde? Est-ce que quand j'agis, quelle est la conséquence de mon action? La portée de mon action ajoute-t-elle quelque chose de bien? Ou au contraire, mon action continue, contribue à faire souffrir les autres.
Par rapport à cette question thématique nouvelle, mais aussi par rapport aux thématiques anciennes, il y a un livre qui a eu un grand écho, semble-t-il, en Amérique du Nord et dans les pays anglophones, sous un titre un peu provocateur, hein, Greek Philosophy is Stolen Philosophy. La philosophie grecque, c'est de la philosophie volée, sous-entendu à l'Égypte, c'est-à-dire en fait la question des rapports entre philosophie grecque et philosophie égyptienne, et peut-être la circulation des savoirs et des idées dans le bassin oriental de la Méditerranée. Ce genre de livre, ça vous paraît être encore des objets importants, ou c'est dépassé, ou faut aborder les choses autrement?
Ce livre de Joe, je crois, ce livre est important, c'est-à-dire, moi je conçois ces livres comme un des fondamentaux. Avec l'autre livre, c'est avec Mary Lekovsky, Lekovic, quand elle a réagi au livre de Martin Bernal sur Black Athena. Donc je crois que cette littérature est importante pour nous, pour le jeune, qu'il sache qu'il ait quelque chose. Ce n'est pas mauvais d'apprendre que vos ancêtres ont fait quelque chose de bien. Maintenant, que faisons-nous de ces héritage, de cette connaissance? Alors, c'est là où nous devons aussi, par exemple, revoir l'histoire, l'enseignement de l'histoire de la philosophie. Il y a quelques années, on parlait de du miracle grec, comme si la philosophie gréco-romaine a surgi comme cela. Mais aujourd'hui, on se rend compte, déjà, même les Européens, déjà avec les jeunes Égyptiens, par exemple, se sont rendus compte que la philosophie occidentale s'est nourrie des apports des autres civilisations. Et nous, en Afrique, nous ne pouvons pas penser autrement. Donc, nous avons quelque chose ici, et c'est quelque chose est important pour que ces jeunes apprennent cela. Et comment ils vont-ils apprendre? C'est-à-dire, se voir ce que nous avons fait ici dans la vallée du Nil, dans les autres vallées, par exemple, le long du fleuve Nil, du fleuve du Sénégal. Par exemple, quand nous allons arriver au XVIe siècle avec la littérature négro-africaine en langue arabe, ici, autour du mont Rwenzori, nous avons ces bateaux d'Ishango, il y a quelque chose là-bas. Donc Tanganyika, toute cette vallée, le rift valley, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai vu, il y a quelques années, avec National Geographic, il y avait un fleuve fossilisé qui passait à côté donc du Nil, donc dans le Sahara. C'est peut-être là qu'on peut comprendre les peintures rupestres de Tassili et de Haga, comme a dit ça, dans le désert, donc dans le Sahara, entre donc dans les pays sahéliens. Donc je crois qu'il y a quelque chose qu'il devra apprendre, et nous rendre compte que la philosophie, la pensée n'est pas comme ça. La pensée naît des apports des plus à culture. Et nous, Dieu ne nous a pas créés intelligents pour rien. Nous sommes nés intelligents, créés intelligents pour que, dit Israël Jacob, à apprendre quelque chose et apporter à notre tour quelque chose à l'humanité.
Votre doctorat date de 2005 et vous enseignez depuis. Est-ce que vous avez des jeunes qui, dans votre foulée, commencent à s'intéresser, disons, à des recherches de haut niveau en égyptologie?
Pas beaucoup, mais par exemple, quand j'enseigne au deuxième cycle, par exemple, question des philosophies antiques, j'ai abordé une année les statuts ontologiques ou bien les statuts cosmogoniques de l'eau et du chaos. Là, je comparais donc la Hésiode, la théogonie d'Hésiode, avec le récit de la Bible pour Israël et avec l'Égypte ancienne, et aussi quelques récits de commencement ou de mythes en Afrique. Et ça, c'est important. La question de l'eau et du chaos. Il y a des jeunes qui s'intéressent surtout pour l'histoire. Mais je leur ai dit, c'est important que nous puissions voir ça aussi au niveau des théologies, au niveau des philosophies, et même des dialogues interreligieux. Parce qu'on se rend compte que chaque culture, à sa manière, essaie de répondre à la question du commencement, à pouvoir, apprivoiser le pouvoir du commencement, le récit du commencement. Il y a quelques jeunes, mais c'est surtout le manque de ressources qui font que, je risque d'être le seul avec mes livres à enseigner. Et là, je crois qu'on pourrait assurer la base, et puis par après les envoyer ailleurs chez les collègues pour pouvoir bâtir quelque chose de solide sur ce que nous aurons humblement et nous aurons construit.
Merci beaucoup à vous, professeur Mpaï Kemboli, égyptologue, professeur, pour être venu éclairer les développements de l'égyptologie depuis les grands débats des années 50 et des années 60, notamment autour de la question du peuplement de l'Égypte ancienne. Ici se termine termine notre émission Mémoire d'un continent. Réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.